Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, amis auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes deux à vous proposer ces leçons. Et nous avons, avec nous, nous avons Ketsia. Ketsia qui va nous aider un petit peu dans ce travail. Et nous sommes très heureux de l'avoir. Nous lui souhaitons une bienvenue. Et nous espérons que tout se passera bien. Et cette leçon de cette semaine a pour titre « Intégrité du don prophétique ». C'est la semaine du 21 au 27 février 2009. Pour commencer, il y a un verset à mémoriser, comme chaque semaine. Et ce premier verset à mémoriser dit tout simplement ceci. « Par la vie du Seigneur, je dirai ce que mon Dieu dira. » C'est tiré du deuxième livre des Chroniques, chapitre 18 et verset 13.
Nous avons aussi plusieurs questions clés. Que savons-nous sur l'intégrité des prophètes bibliques? Si l'écriture et les écrits d'Ellen White sont tous inspirés par le même esprit, quel rapport existe-t-il entre les deux? Quel danger court-on en pensant qu'un prophète est infaillible? Un prophète peut-il donner un conseil mal avisé?
Si vous lisez des critiques actuelles sur la Bible, vous remarquerez que les attaques à son encontre sont semblables à celles prononcées contre Ellen White. L'une de ces critiques consiste à dire que, parce qu'Ellen White faisait appel à d'autres sources, elle n'est ni fiable ni honnête.
Pourtant, Ellen White a expliqué de quelle façon elle utilisait les écrits d'autres auteurs et pourquoi. Elle a même recommandé qu'on lise certains des livres qu'elle a utilisés pour rédiger ses propres ouvrages. Elle ne donne donc pas l'impression de vouloir cacher qu'elle faisait appel à d'autres sources. Cette semaine, nous approfondirons un peu plus la manière dont fonctionne l'inspiration chez les auteurs bibliques et chez Ellen White.
Eh bien, c'était donc l'introduction pour cette semaine. Et nous sommes à la journée du dimanche 22 février 2009, et cette journée a pour titre
« Intégrité du prophète ».
Intégrité du prophète. En l'an 853 avant Jésus-Christ, Akab, roi d'Israël, a invité Josaphat, le roi de Juda, à se joindre à lui pour combattre les Araméens. Josaphat a accepté, mais il a demandé à consulter d'abord la parole du Seigneur. Et comme il refusait d'écouter les 400 prophètes d'Akab, le roi d'Israël a fait appeler Michée, prophète du Seigneur. Et nous allons lire maintenant ce récit, nous le trouvons dans le premier livre des rois, chapitre 22, et nous lirons des versets 10 à 14, et nous allons voir comment l'officier d'Akab a cherché à influencer Michée, et nous allons voir ce qu'a fait le prophète au mépris des circonstances. Et une première partie de ce récit, nous allons le trouver, 1 roi 22, les versets 10 à 12.
Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air à l'entrée de la porte de la Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et dit « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel, là, livrera entre les mains du roi. »
Eh bien, nous continuons avec les versets 13 à 14. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. »
Le message de Michée n'a pas été bien accueilli par le roi Akab, qui a fait enfermer le prophète. Achab, malgré l'avertissement de Dieu, est entré en guerre et a été tué. Quant au roi Josaphat, qui dans un moment de faiblesse avait accepté de le soutenir, il a été sauvé de justesse.
Les prophètes, comme tous les êtres humains, ont des moments de faiblesse. Mais dans ce cas précis, Michée était résolu à dire la vérité, même s'il devait être mal vu des dirigeants. Tout au long de l'histoire, les prophètes de Dieu ont enduré des épreuves parce qu'ils ont refusé d'adapter leur témoignage pour plaire à leurs contemporains.
Au cours de la vie d'Ellen White, on a mis en doute son intégrité et on n'a pas cessé de le faire, même après sa mort. On l'a accusé de tromperie et de mensonge. Mais ces critiques émanent surtout de gens qui ont des conceptions très personnelles sur la façon dont un prophète est supposé fonctionner.
Par exemple, certains commentateurs estiment qu'un prophète doit avoir une pleine connaissance dès le début de son ministère. Ses prophéties ne doivent pas changer, ses écrits doivent être exempts de toute erreur et de toute incohérence, et ils ne doivent jamais comporter de textes non inspirés. Ces critiques pensent qu'un prophète ne doit jamais exprimer d'opinion personnelle dans ses écrits.
Comme nous l'avons constaté en étudiant les prophètes bibliques, ces a priori s'appuient sur une notion de l'inspiration verbale que les adventistes n'ont pas. Si nous ne soutenons pas cette idée en ce qui concerne la Bible, pourquoi la soutiendrons-nous en ce qui concerne Ellen White ?
Eh bien, voici cette journée du dimanche qui s'achève de cette façon. Nous allons maintenant prendre le lundi 23 février 2009. Et là, le thème pour cette journée du lundi, c'est le suivant.
Intégrité du message.
Quelques mois après la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, Guédalia, le gouverneur de Juda, nommé par Nabuchodonosor, a été assassiné. Les dirigeants et le peuple restés dans le pays ont eu peur de subir des représailles de la part des Babyloniens et ils ont décidé de se réfugier en Égypte. Mais ils voulaient auparavant s'assurer que Dieu était de leur côté. Aussi ont-ils demandé à Jérémie de présenter leur projet au Seigneur.
Lisons le message que Jérémie leur a délivré et voyons comment les Hébreux ont réagi. De quoi ont-ils accusé le prophète ? De qui, selon eux, venait le conseil de Jérémie ? Nous allons lire dans Jérémie 43, versets 1 à 2.
Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire. Azaria, fils de Hocharia, Johanam, fils de Kérat, et tous les hommes présomptueux dirent à Jérémie, « Ce que tu dis est faux. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y séjourner. » Nous continuons maintenant avec les versets 3 et 4.
Mais c'est Baruch, fils de Neriah, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous déportent à Babylone. Johanan, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée et tout le peuple n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait d'habiter dans le pays de Juda.
Parce que certains des Hébreux n'ont pas apprécié les claires instructions de Dieu, ils ont prétendu que le message de Jérémie, lui, venait de son secrétaire Baruch et non du Seigneur.
Il est intéressant de noter que des milliers d'années plus tard, on a parfois reproché à Ellen White, comme à Jérémie, d'avoir fait rédiger ses livres par ses secrétaires ou d'avoir plagié d'autres auteurs. Pourtant, dans l'introduction de la Stratégie des siècles, elle précise bien qu'elle a fait appel à d'autres sources historiques.
là où les scènes à retracer se sont trouvées résumées par quelque historien de telle façon qu'elles cadraient avec le plan de cet ouvrage, dit-elle, j'ai cité ses propres paroles et indiqué la source, mais je ne me suis pas astreinte d'une façon absolue, mes citations n'étant pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre de la Réforme à notre époque. C'est une citation qui est tirée de la Tragédie des siècles.
Cette déclaration justifie-t-elle l'accusation de plagiat ? En 1981, la Conférence générale a demandé à un juriste non-adventiste spécialisé dans les droits d'auteur d'étudier la question. Après plus de 300 heures de recherche, il a conclu « Ellen White » n'est pas une plagiaire et ses œuvres ne violent en rien les droits d'auteur.
Citons parmi les raisons données, premièrement, les livres utilisés par Ellen White n'étaient pas protégés par les droits d'auteur. Deuxièmement, même s'ils l'avaient été, l'emprunt qu'elle a fait de certaines phrases et expressions ne constitue pas un non-respect de ses droits. Et voilà, nous avons fini avec la journée du lundi. Mardi 24 février 2009. Et là, il s'agit de...
Ainsi parle le Seigneur. Voyons qui les prophètes désignaient souvent comme source de leur message, et en quoi cette précision était-elle importante pour le message qu'ils devaient délivrer. Bernard nous lira Jérémie 1, verset 4.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et un deuxième texte que Kétia lira, Ézéchiel, chapitre 7 et verset 1er également.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le dernier, ça sera dans Osée 1, verset 1.
Lui aussi, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Joram, d'Ahaz, d'Ézéchia, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël.
Les prophètes ont souligné à maintes reprises que leur message venait de Dieu. On peut les comparer à des ambassadeurs envoyés par leur souverain pour le représenter. Il leur incombe de respecter intégralement les instructions reçues. L'expression « parole du Seigneur » qui parvint à implique que les messages des prophètes étaient investis de l'autorité divine, qu'ils provenaient directement du Seigneur, ou alors qu'ils étaient présents à l'esprit des envoyés de Dieu, prêts à être communiqués.
L'expression « ainsi parle le Seigneur » apparaît plus de 400 fois dans l'Ancien Testament, ce qui témoigne puissamment du fait que, dans les Écritures, Dieu s'adresse directement au lecteur. Le prophète avait pour tâche de délivrer ses messages à leur destinataire en tenant compte de leur situation particulière.
Ellen White a fortement souligné le caractère inspiré des Écritures. Je prends la Bible telle qu'elle est, la parole inspirée, elle déclarait dans Message choisi. Elle a aussi affirmé que Dieu avait inspiré ses écrits, en disant « Mes lettres et mes témoignages vous présentent ce que le Seigneur m'a montré. Ceci est vrai des articles parus dans nos périodiques, aussi bien que des nombreux volumes compris dans mes ouvrages. »
Ellen White disait également que ses écrits étaient une petite lumière conduisant à la grande, c'est-à-dire la Bible. Si toutes deux sont une lumière, elles n'ont pas le même rôle. Premièrement, la Bible est un message que Dieu adresse à tous les hommes de tous les temps. Les écrits d'Ellen White sont un message que Dieu adresse à un peuple particulier, l'Église du reste, pour une époque particulière, la fin des temps. Enfin, ces écrits n'ajoutent rien à la doctrine, ils sont une aide pour l'Église du temps de la fin, ils dirigent l'attention du lecteur vers la Bible, mais ils ne la remplacent pas.
En conclusion de cette journée, voici quelques phrases à méditer. Comment éviter le piège consistant à donner aux écrits d'Ellen White la même valeur que la Bible? Ne tombons-nous pas facilement dans ce piège?
Eh bien, c'est à méditer, bien sûr, comme chaque jour. Nous arrivons maintenant à la journée du mercredi 25 février 2009 et le titre pour cette journée sera le suivant.
Vers une compréhension plus profonde.
Les prophètes ne recevaient pas toute la lumière de Dieu en une seule fois. C'est en exerçant fidèlement leur ministère en tant que serviteurs du Seigneur qu'ils recevaient peu à peu de nouvelles lumières et acquéraient une compréhension plus profonde.
Voyons ce que nous apprennent quelques textes sur la façon dont les prophètes bibliques évoluaient spirituellement. Le premier texte se trouve dans Daniel 8, verset 27.
Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade, puis je me levai et m'occupa des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision et ne la comprenais point. Nous continuons avec le chapitre 9 de Daniel, les versets 2 et 3.
La première année de son règne, moi Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Nous continuerons dans Galates 2, versets 11 à 12.
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, et c'est l'apôtre Paul qui parle, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Nous continuons avec les versets 13 et 14.
Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Nous continuerons du verset 15 au verset 16.
Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi.
Posséder le don prophétique à l'époque de la Bible n'impliquait pas que l'on ait sur les questions d'ordre spirituel ou autre une connaissance immédiate, pleine et entière. Les prophètes recevaient de nouvelles lumières au fur et à mesure que se déroulait l'histoire humaine et qu'eux-mêmes étaient aptes à les comprendre. Ils devaient également sonder les Écritures, comme l'illustre le cas de Daniel. Le prophète déclare « J'étais atterré à cause de la vision, je ne la comprenais pas. » 10 ans plus tard environ, l'ange Gabriel vient lui expliquer la pleine signification de sa vision.
Les prophètes ne savaient que ce que Dieu voulait bien leur révéler, et c'est uniquement cela qu'ils étaient autorisés à souligner d'un « Ainsi parle le Seigneur ». Dans la mesure où les messages adressés à un prophète complétaient souvent ceux qui avaient été confiés à d'autres, il était nécessaire d'étudier et de comparer les diverses révélations afin d'acquérir une idée équilibrée et complète des messages célestes.
Il en est de même pour Ellen White. Pendant 60 ans, des messagers célestes ont communiqué avec moi et je n'ai cessé d'en apprendre davantage sur le divin et sur la façon dont Dieu œuvre constamment pour amener à sa lumière les âmes plongées dans l'erreur, disait-elle.
Lorsque l'on compare en effet les premiers écrits d'Ellen White avec ses œuvres plus tardives, on constate que les dernières modifient ou parfois développent les premières, donnant des messages divins une connaissance plus approfondie.
Ellen White n'était pas par principe une théologienne. Elle fonctionnait davantage comme une évangéliste et une messagère de Dieu. Sa perception de la théologie, bien que fondée sur les Écritures et renseignée par ses visions, n'a cessé de s'approfondir au cours des années, tandis qu'elle poursuivait l'étude de la Bible et d'autres écrits, tout en restant attentive aux directives du Saint-Esprit.
Eh bien, cette journée se termine et nous avons, comme d'habitude, deux ou trois lignes à vous proposer en réflexion. Il faut prendre garde de ne pas attribuer aux prophètes les qualités qui sont propres à Dieu, comme par exemple l'omniscience, pour des êtres infaillibles qui connaissent à fond tous les domaines de la vie. Ne prenons pas le risque de les prendre pour des êtres infaillibles qui connaissent à fond tous les domaines de la vie. Et bien voilà, c'était la fin de ce jour, mercredi 25 février. Jeudi 26 février, et là, nous étudions...
Quand les prophètes se trompent. Lisons en quoi le conseil de Nathan à David était mauvais et pourquoi Dieu n'a pas permis au roi de lui construire un temple. Nous le lirons dans 2 Samuel 7, versets 1 à 3.
Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Nous continuons avec les versets 4 et 5.
Or cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Nous continuons versets 12 à 14.
« Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Et un dernier texte nous est proposé, c'est 1 Chronique 22, les versets 7 et 8.
David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. » Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Tu as beaucoup versé de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre.
Le prophète Nathan était un homme sage et réfléchi, qui craignait Dieu. Mais un prophète n'est pas forcément inspiré dans tout ce qu'il dit ou fait. En approuvant les projets de David, Nathan avait parlé en tant qu'ami et non en tant que prophète. La plupart des hommes pieux désiraient sans doute que Dieu, le Dieu d'Israël, ait une demeure permanente. Mais au cours d'une vision nocturne, Dieu a averti Nathan qu'il était dans l'erreur et qu'il devait en faire part à David.
Ellen White n'était pas infaillible non plus. Elle n'a jamais prétendu l'être. En acquérant davantage de maturité, elle a changé d'avis sur certaines questions et s'est toujours montrée disposée à recevoir de nouvelles lumières.
Dans un cas notamment, alors que la maison d'édition du sud du pays était en difficulté, elle a pensé la transformer en dépôt pour la Review en Herald, c'est-à-dire le journal officiel de l'Église adventiste. Aller de l'avant La cause de Dieu doit être à l'abri des critiques, dit-elle, même s'il est douloureux pour certains que la situation soit redressée de cette façon. Edson doit se consacrer au ministère et à l'écriture. La finance n'est pas son fort. Ce sont des extraits de différents manuscrits anciens d'Ellen White.
Mais 24 heures plus tard, Ellen White a reçu une vision qui lui a fait réviser son jugement. Il est nécessaire que notre champ missionnaire possède sa propre maison d'édition dans le sud du pays. Elle a déclaré à la conférence générale.
N'oublions pas que les prophètes ne sont pas continuellement « de service », entre guillemets. Ils ne sont pas constamment les porte-parole du Seigneur. Il y a des moments, dit Ellen White encore, où il faut parler de choses ordinaires, occuper son esprit à des pensées ordinaires, écrire des lettres ordinaires, et pour les ouvriers de Dieu se transmettre des informations ordinaires. Ces paroles et ces informations ne sont pas données sous l'inspiration de l'esprit.
Mais comme le montre l'histoire, il arrive à un prophète de donner un mauvais conseil. Dieu intervient pour corriger l'erreur. Pour terminer cette semaine, voici la pensée. Certains aiment se focaliser sur la moindre erreur qu'ils peuvent remarquer dans la Bible ou dans cette lumière moins grande que sont les écrits d'Ellen White. Veillons à ne pas tomber dans un tel piège.
Eh bien, c'est ainsi que se terminait cette journée du jeudi. Comme d'habitude, le vendredi, quelques extraits encore de citations à vous proposer. Et pour aller plus loin, voici un premier extrait qui nous est proposé. Il n'est pas d'Ellen White, mais il est d'un autre auteur, Clifford Goldstein. Et voici ce qu'il dit. « Ellen White a fait des déclarations sans compromis ni ambivalence au sujet de son ministère. » Elle dit avoir eu des visions qui ne pouvaient être que le résultat d'une inspiration surnaturelle. Soit ces déclarations sont vraies, soit Ellen White était une sorte de malade mentale ou une menteuse d'exception qui a réussi à répandre ses folles divagations ou ses extraordinaires impostures du milieu du XIXe siècle jusqu'à la seconde décennie du XXe siècle.
Que penser raisonnablement de quelqu'un qui prétend avoir eu de telles visions ? Ellen White dit qu'elle a vu Jésus emmener les rachetés dans la cité céleste. Elle dit avoir vu des gens sur d'autres planètes et des anges protégeant le peuple de Dieu. Elle déclare avoir vu en vision Jésus dans le sanctuaire céleste et Satan tel qu'il était au ciel avant sa chute.
Elle dit avoir vu des anges rendre visite à Adam et Ève en Éden. Elle affirme qu'elle a vu l'expression du visage d'Adam quand il a compris qu'Ève avait péché, et celle du visage de Jésus après son jeûne dans le désert. Elle affirme qu'elle a vu Jésus ressuscité du tombeau et un ange délivrer Paul et Silas de la prison. Elle a vu Satan conduire la multitude des hommes perdus dans une rébellion finale contre Dieu après la seconde résurrection. Elle dit avoir vu toujours en vision la vie sur la nouvelle terre, etc.
Que penser de telles déclarations ? Ceux qui pensent que son ministère est analogue à celui, par exemple, de Martin Luther, font preuve d'une logique tout à fait fantaisiste. Ou nous prenons Ellen White au mot, ce qui, bien sûr, laisse en suspens une série de questions auxquelles notre Église n'a pas toujours répondu très à propos, ou nous la rejetons parce que nous la considérons comme une menteuse, une malade mentale ou quelqu'un qui est sous l'influence du démon. Ce sont les seules options logiques.
Eh bien, en conclusion de cette semaine, voici encore quelques lignes à méditer. L'argument de l'auteur de cette citation est simple, la citation que nous venons de vous lire. Au vu des déclarations d'Ellen White sur elle-même, la logique ne nous laisse pas beaucoup de choix pour juger de son ministère. D'après ce que nous savons concernant sa vie, ses enseignements et les écrits qu'elle a laissés, quelle est en réalité l'explication la meilleure et la plus logique de sa vie et de son ministère?
Comme pour la Bible, certains points touchant le ministère d'Ellen White n'ont toujours pas été résolus. Mais la vraie question qui se pose est celle-ci. Allons-nous nous focaliser sur ces quelques questions et passer à côté de l'ensemble de son œuvre, ou nous concentrer sur cette dernière, sachant que certaines interrogations resteront en suspens, comme c'est toujours le cas?
Eh bien voilà, cette semaine s'achève. Nous avons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Nous vous disons donc à bientôt.
À bientôt. Revoir.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.